Alors, une autre question orale, peut-être. Il y a vraiment beaucoup de questions orales, donc tu peux faire passer le micro, s'il te plaît.
Oui, bonsoir.
Oui, mais il y a tout le monde a demandé. En fait, dès qu'on a demandé les questions orales, tout le monde a levé la main.
Oui. Oui.
Ah alors, oui, il y a vous aussi.
Alors,
ah
ben, je vais poser.
Merci. J'ai des questions. J'ai des questions. Premièrement, il faut bien choisir les termes. Est-ce que nous sommes devant une révolution ou bien une anarchie dans le monde arabe? Ici, nous avons devant une révolution. Je crois que les révolutions, il y a, scientifiquement, il y a des conditions pour la révolution. Et la condition principale est le changement idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a un changement idéologique en Tunisie ou bien en Égypte? Je crois personnellement que par exemple, en Égypte, en Tunisie, ce n'est pas un changement idéologique, mais c'est un coup d'État contre pouvoir pour la transition de l'État policier à l'État militaire. De l'État policier de Ben Ali à l'État militaire de Omar Rachid. Et comment expliquer, par exemple, aujourd'hui, que l'Mbaza est le président de la Tunisie, le président provisoire, ou bien les gens de l'ex-pouvoir sont maintenant qui dirigent le pays. La deuxième question, entre parenthèses, dans l'histoire, il y a des exemples des révolutions. Il y a la révolution iranienne en 1979, on trouve le changement idéologique de l'État du Shah à l'État islamique. On a l'exemple de la révolution égyptienne de 1952, de le roi à la République. On a aussi la révolution populaire en Espagne des années 70 contre Franco. Aujourd'hui, où est les révolutions arabes, entre parenthèses, et moi je préfère pas d'utiliser le terme révolution, mais des événements. Deuxième question, c'est concerne la Libye.
La troisième question.
Non, c'est deuxième.
Vous êtes toujours sur la deuxième.
Deuxième question, c'est concerne la Libye. C'est concerne la Libye. La question, c'est comment expliquer la guerre de l'OTAN contre la Libye? Moi, je ne dis pas l'intervention militaire internationale pour sauver le peuple libyen. Est-ce que c'est vrai? Et l'intervention militaire est pour sauver le peuple libyen? Pour sauver le peuple libyen pour la liberté, ou bien pour la liberté du peuple libyen, ou bien pour un jeu géostratégique pour, entre parenthèses, récoloniser le monde arabe, ou bien la Libye, cette fois-ci au nom de la démocratie, mais avant au nom de la civilisation. Moi, je rappelle dans l'histoire, en 1830, les troupes militaires.
Oui. Très bien, très bien. Non.
En 1830, les troupes militaires françaises...
Faites vite.
En 1830, les troupes militaires qui ont occupé l'Algérie, qu'est-ce qu'on se dit? Ils disent, nous sommes arrivés pour civiliser le peuple algérien.
Très bien.
Aujourd'hui, pour démocratiser le peuple
D'accord.
libyen.
Ils vont répondre là-dessus. Non, on va prendre plusieurs questions. On prend plusieurs questions? Non,
alors,
non, surtout pas.
Alors,
on prend plusieurs
alors,
questions.
Très rapidement...
Bonjour.
Il y a 20 personnes qui veulent poser des questions.
Très rapidement, j'ai juste une petite question à poser. Alors, je reviens juste sur les deux aspects qui se sont dégagés sur vos échanges. La révolution libyenne et quelque part à la position des événements en Syrie. J'ai envie de dire qu'en Afrique, notamment en Afrique équatoriale, il y a des régimes qui ont plus de 30 ans, qui sont toujours en place. Et aujourd'hui, des jeunes qui vivent dans ces pays-là, regardent les événements qui se passent. Ils ont grandi eux aussi avec la mondialisation. Ils sont très curieux des événements et disons qu'ils se posent des questions. Et il y a des élections qui vont avoir lieu dans ces pays-là. Il y a des choses qui se passent. Et la question du rapport, notamment à la... comment est-ce qu'ils vont faire pour... comment dirais-je... arriver à la révolution et s'organiser? Il y a la question de la violence qui émerge, notamment comme on le voit en Libye, où à un moment donné, la population n'a pas eu d'autre choix que de s'opposer à la répression, ou en Syrie, où au contraire, monsieur, je n'ai plus le nom, dit que tout, absolument, il faut absolument refuser la violence. Donc il y a cette question qui va se poser où vous avez tout un tas de gens qui ont entre, on va dire, qui ont entre 17 ans et 30 ans, qui n'ont vécu que dans la dictature, et donc la génération où les parents ont connu la colonisation, où souvent c'est eux qui freinent un petit peu le phénomène, qui leur disent de ne pas y aller. Et moi, je me pose la question, quel message leur transmettez-vous? La révolution ne s'arrête pas seulement dans les pays arabes. Je pense que c'est quelque chose qui a un caractère universel. Et dès aujourd'hui, je pense qu'il y a une dimension idéologique, ou en tout cas une position qu'il serait intéressant d'avoir, ou en tout cas dans le discours, de marquer, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas aux pays arabes. Voilà quelle était ma question.
Très bien, merci. On prend une troisième question, monsieur.
Bonjour. Je peux ? Bonjour, en fait, j'ai deux petites questions. La première, je pense que je vais l'adresser au représentant de l'hebdomadaire Mariam. Donc, du coup, en fait, je voulais juste savoir si l'intervention étrangère en Libye, en fait, n'a pas volé la victoire du peuple libyen. C'est-à-dire, avec les bombardements sur les forces de Kadhafi et tout ce qu'on a vu et tout récemment, cet après-midi, aux infos, on nous annonçait en fait que l'OTAN et principalement la France allaient déployer des avions et des hélicoptères de guerre. Je me pose la question si l'intervention militaire n'a pas vraiment volé la victoire du peuple libyen. Et la deuxième question aussi, c'est une question plutôt liée au jeu stratégique au niveau international. Si l'intervention libyenne, en fait, si l'intervention militaire en Libye n'a pas d'autre dessous, notamment la question du pétrole. Et la troisième question, c'est, je vais l'adresser aux représentants de la société civile libyenne. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de la position de l'Union africaine sur le conflit qui se passe en Libye? Je vous remercie.
Voilà. Oui. Alors, bon, oui. Monsieur.
S'il vous plaît, une vraie question, ce n'est pas une explication. Suite à l'intervention de monsieur Joseph Yacoub et de monsieur sur la Syrie, je voudrais juste vous poser une question. Il y a deux semaines, j'ai écouté l'explication sur la révolution syrienne d'un géographe qui donne comme explication que l'espace géographique et l'espace ethnique fait que, en Syrie, certaines régions bougent et d'autres pas. Deuxième chose, il disait qu'il voyait l'issue, elle est plutôt triste, et c'est à l'étouffement en Syrie. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette explication de ce géographe et comment vous voyez, vous, l'issue de la révolution en Syrie?
Voilà. On prend une dernière question pour l'instant, monsieur.
Oui, juste une remarque rapide sur la Syrie et une question sur l'Égypte. S'agissant de la Syrie, les seules mesures actuelles de l'Union européenne et des États-Unis sont de geler les avoirs de Bachar el-Assad. Le Raïs syrien ne va pas boiter quand on connaît l'influence de sa famille, notamment maternelle, sur l'économie syrienne. On pensait, quand il a succédé à son père en 2000, qu'il serait moins sanguinaire qu'Hafez el-Assad, qui avait été notamment à Hama avec l'école des cadets, et au passage on dit même qu'il avait fait assassiner un ambassadeur de France au Liban. Donc ça, c'est juste une petite remarque. Ma question, moi, concerne l'Égypte. Il y a 59 ans, les colonels ont pris le pouvoir à la suite de la chute de la monarchie, et au fil des années, et particulièrement avec Moubarak, sont manifestés comme ce qu'on appelle des seigneurs de guerre. Ils se partagent le territoire. Apparemment, ils ne voudront jamais lâcher l'État en Syrie. Alors, comment voyez-vous le rôle de l'armée? Et notamment, quel rôle pensez-vous que peut avoir quelqu'un qui est assez connu en France, qui s'appelle Ammoussa, qui est francophone, qui a été à la Ligue arabe, qui a été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères de Moubarak, puis limogé? Alors, est-ce qu'il a des chances crédibles d'accéder au pouvoir?